je vais commencer par introduire les journées. Donc un merci à tous les gens qui sont là. Je me présente donc Martin Moore du Centre d'études africaines de l'EHESS, ma voisine Cindy Morillas du Laboratoire des Afriques dans le Monde, et messieurs Pierre Boilet et Richard Banegas. On voudrait d'abord remercier nos hôtes qui nous accueillent aujourd'hui et demain, donc le Centre d'études des relations internationales et l'Université Paris 1. On va commencer par remercier tous les partenaires financiers et logistiques, donc les structures inter-établissements, inter-laboratoires, le campus Condorcet, le groupe d'intérêt scientifique Afrique que présentera M. Boilet dans 3 minutes. Tous les laboratoires estampillés Afrique, donc soit le Centre d'études africaines de l'EHESS, le Centre d'études des mondes africains regroupé à l'Université Paris 1 et à l'Université d'Aix-Marseille, le Laboratoire des sociétés en développement études transdisciplinaires de l'Université Paris Diderot, le CEDET, le Laboratoire des Afriques dans le Monde rattaché à Sciences Po Bordeaux, et enfin d'autres laboratoires qui, s'ils n'ont pas une dominante Afrique, intègrent des doctorants travaillant sur les mondes africains. Le Centre d'histoire de Sciences Po Paris, ainsi donc que le CERI, le Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'Université Paris 1, et enfin le Centre de recherche d'histoire moderne de Paris 1 également. On remercie enfin l'école doctorale de Sciences Po Paris, l'école doctorale de Sciences Po Bordeaux et l'IEP de Bordeaux qui ont contribué à la réussite, on l'espère, de ces journées. On voudrait remercier en particulier aussi tout le personnel de ces laboratoires pour le travail de l'ombre qu'ils ont fourni. Et merci enfin aux professeurs qui composent le comité scientifique et qui nous ont épaulés tout au long de cette année de préparation. Et enfin, pour finir sur les remerciements, un grand merci à tous les intervenants et intervenantes et ceux qui nous ont proposé une communication. Je vais dire deux mots sur le projet de cette journée. Donc c'est parti un petit peu d'une poignée de doctorants à l'automne de 2011 qui se connaissaient, qui travaillaient sur des terrains africains et dont la volonté était de développer un espace institutionnel de parole autour de thématiques ayant trait au continent africain. L'idée étant de faire un état des lieux, une cartographie des recherches menées aujourd'hui par les jeunes chercheurs rattachés à des établissements français. Donc, nous avons donc cherché à représenter dans le comité d'organisation, nous avons cherché à représenter l'ensemble des laboratoires africanistes, dont je viens de vous faire la liste, et je ne vais pas recommencer. Il s'agissait de confronter des travaux, des approches, des problématiques et des méthodologies s'intéressant à diverses aires régionales et issues de diverses disciplines des sciences sociales et humaines. C'est donc un peu cette volonté de brassage qui nous a guidés dans la sélection des communications. Et le travail a duré presque un an et demi pour réunir au final plus de 250 propositions de communication, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Je vous remercie et je laisse la parole à Cindy Morillas.
Oui, donc moi je vais plutôt vous présenter le programme globalement. À savoir donc, comme on a voulu représenter la diversité des études africaines dans des établissements français, on a une diversité de thèmes qui sont abordés dans 20 panels, à partir de 20 panels thématiques. Donc comme il a dit, on a reçu près de... Ah oui, j'ai oublié de mettre le micro. Ça marche, pardon. On a reçu près de 250 communications, et plus précisément, je vais vous dire les disciplines qui se sont présentées, qui ont été représentées. Alors, on a reçu 52 propositions en sciences politiques, 40 en anthropologie et ethnologie, 35 en histoire à partir du XXe siècle, 27 en lettres et arts, 27 en sociologie, 13 en géographie, 9 en économie, 8 en droit, 5 en relations internationales, 4 en sciences de l'éducation, on en a eu quelques-unes en infocommunication, quelques-unes en linguistique, sciences du langage, quelques-unes en ce qui relève de l'architecture, sciences du patrimoine, urbanisme. On en a reçu une seule en archéologie, une seule en psychologie, une seule en sciences créatives et une seule en histoire d'avant le XXe siècle. Voilà, donc nous, au final, dans le programme, on a retenu environ 80 propositions de communication dans une dizaine de disciplines, donc sachant qu'on en avait reçu dans une quinzaine de disciplines. Et on a donc 20 panels en 5 sessions composées de 4 panels. Donc vous avez dû constater, après cette séance d'ouverture, on va se déplacer à Sciences Po Paris, 9 rue de la Chaise, pour assister à la première session à partir de 10h30. Ensuite, la deuxième à 14h30 et la troisième à 16h45, donc se tiendront toujours à Sciences Po Paris. Samedi, on se retrouvera plutôt à l'Université de Paris 1, précisément au Centre Panthéon, 12 place de la Sorbonne, avec cette fois la quatrième session qui va commencer à 9h, suivie de la cinquième à 11h15, jusqu'à 13h15. Ensuite, pause déjeuner, et on reviendra à 14h30 où pour vous inviter à une table ronde finale avec l'intervention de Jean-François Bayard, directeur de recherche CNRS au CERI, en sciences politiques, et Pierre Boilet, professeur d'histoire au CMAF. On terminera avec une session importante qui est l'Assemblée générale des doctorants et des doctorantes, qui débutera à 16h. Donc là, il s'agira de discuter des enjeux des recherches doctorales en études africaines aujourd'hui, notamment on pourra parler du cas des doctorants étrangers, et aussi parler des perspectives qui peuvent faire suite à cette rencontre nationale des jeunes chercheurs en études africaines. Donc on vous invite à venir nombreux à cette Assemblée générale, j'insiste sur son importance. Donc ça me rend aussi à vous de donner votre avis et vos retours sur ces deux journées. Voilà, je vais laisser la parole à Richard Banegas qui va parler en tant que représentant du CERI notamment. Le directeur du CERI s'excuse, M. Christian Le Cannes, il n'a pas pu être présent aujourd'hui pour assister à cette ouverture, pour ouvrir cette rencontre. Merci.
Oui, il s'éteint bon. Automatiquement.
Ah, merci.
Merci de me donner la parole. Je parle ici au nom de Christian Le Cannes et du CERI qui m'a demandé de le supplier parce qu'il ne pouvait pas être présent avec nous ce matin. Et donc prononcer un mot de bienvenue à tout le monde au CERI et il m'avait demandé aussi de rappeler l'attachement du laboratoire aux études africaines, qui est une longue tradition ici, dans une perspective plutôt comparée. Je rappelle, pour mémoire, même si le CERI était rue de Chevreuse à l'époque, qu'il y a plus d'une trentaine d'années, un petit groupe s'était créé ici avec un bulletin qui s'appelait les modes populaires d'action politique, hein, et qui avait donné naissance à tout le courant du politique par le bas, qui s'était développé au sein de la revue Politique africaine, qui était également née au CERI. Le CERI est aussi le premier soutien et financier et en personnel de la revue politique africaine, et il faut également mentionner le fait qu'il n'est pas anodin pour la suite de nos histoires qu'à Sciences Po il y a une nouvelle dynamique dans le domaine des recherches et études sur l'Afrique, puisque un nouveau campus Europe-Afrique s'est créé, pour ceux qui le savent peut-être, l'an dernier, et qui témoigne en fait de l'excellence des jeunes étudiants qui sont dans ce cycle-là, et on peut d'ailleurs imaginer qu'une nouvelle génération est en train de se forger dans ce petit moule de pair avec les autres de Paris. Alors personnellement, évidemment, moi je suis très heureux de pouvoir ouvrir ces journées d'études et surtout de voir aboutir cette très belle initiative étudiante lancée notamment par certains de la girafe de Paris 1 et qui témoigne, je crois, très fortement de ce dynamisme de la jeune recherche africaniste française et européenne. Pendant une quinzaine d'années, avant d'arriver ici à Paris 1, j'ai pu observer justement le renouveau de ces recherches qui se mesurent à tout un ensemble d'indices. Vous évoquiez le nombre de propositions reçues pour ces journées d'études, c'est assez impressionnant, hein, plusieurs centaines, plus de 80 communications réunies. Vous êtes l'ASA et l'AEGIS à vous tout seul, hein, en quelque sorte, c'est assez impressionnant. Mais surtout, les indices de cette excellence de la jeune recherche africaniste sont assez nombreux et encourageants à Paris 1 pour notre expérience. Johanna et Marie-Emmanuelle me corrigeront, mais auparavant, les thésards, c'était quoi? C'était des fils de ministres, hein, pour l'essentiel, hein, qui venaient faire leur thèse, hein, et retournaient au pays bardé de leur doctorat. Aujourd'hui, les meilleurs étudiants du département de sciences politiques sont souvent issus de la filière africaniste et raflent même les allocations de l'école doctorale aux grandes dames de nos collègues internationalistes et autres. Et je crois que c'est un peu pareil en histoire, hein, Pierre, tu nous confirmeras. Le nombre de publications également issues de ces jeunes recherches, y compris dès le master, hein, de bouquins tirés de mémoires de master ou d'articles publiés dans des revues à comité de lecture, sont, je crois, aussi le signe, hein, de cette bonne santé. Le rajeunissement aussi des associations professionnelles, je pense notamment à l'Association des chercheurs de politique africaine, qui a vu un véritable 109 affluer ces dernières années, et puis surtout les recrutements, hein, les recrutements au CNRS notamment, qui a vu ces dernières années de très très belles candidatures, hein, qui notamment à Bordeaux a donné cette espèce de nouvelle dream team là, qui est arrivée il y a pas très longtemps sur le campus bordelais. Et puis surtout, ce dynamisme, il se manifeste dans le renouvellement des objets, dans la façon de les appréhender, dans les approches dont témoigne bien, je crois, l'orientation de ces journées d'études, hein. Je pense à quelques travaux d'anthropologie du cosmopolitisme prenant pour objet des filles de la nuit, ou à d'autres travaux renouvelant assez nettement les approches du religieux. Il y a tout un renouveau aussi de la mouridologie, j'allais dire, sur le Sénégal, hein, qui témoigne bien de cette inclination, ou bien autour des questions de violence, hein, qui sont d'ailleurs, hein, je voulais le dire, étonnamment absentes de ces journées d'études. On pourra peut-être s'en expliquer. Et puis ce dynamisme, il se manifeste encore et il est porté aussi par une mobilité de plus en plus forte, je crois, des jeunes chercheurs en études africaines, une internationalisation aussi croissante de ces études africaines, soutenue notamment par le FASOPO, qui, grâce à Jean-François Bayard, a œuvré dans ce sens, et je crois que ça a été aussi le cas pour ces journées. Le Joint African Studies Programme, qui s'est créé entre Paris 1 et Columbia, est un de ces vecteurs, justement, de l'internationalisation. Je pense aussi à toutes les initiatives heureuses lancées par nos collègues du LASDEL à Niamey, notamment leur école d'été qui voit se rejoindre chercheurs d'Afrique de l'Ouest et de toute l'Europe pour de très très belles sessions. Et puis tout un processus d'européanisation aussi de cette jeune recherche africaniste dans les réseaux de l'IGIS, ou de façon plus anecdotique mais non moins agréable, sur l'île de Procida pour certaines sessions. Donc effectivement, hein, on peut s'en réjouir. Les études africaines, on peut le constater aujourd'hui, sont sorties de leur vieux précaré et géographique et disciplinaire, mais il ne faut pas non plus se voiler les difficultés, hein, qu'elles rencontrent, notamment pour se voir reconnaître par des sciences sociales hexagonales assez fermées au vent du large, hein, il faut bien le dire, dans une conjoncture évidemment budgétaire difficile et de plus en plus difficile, dans un contexte aussi de contractualisation de la recherche qui n'est pas toujours favorable à ceux qui veulent dépasser le périph parisien ou la rocade bordelaise. Alors cette problématique-là, évidemment, hein, elle n'est pas simplement matérielle et disons logistique. La difficulté tient évidemment à savoir aussi s'il existe et s'il peut y avoir un champ africaniste et quelle peut être sa place dans le champ de la connaissance des sciences sociales hexagonales ou européennes. Il y a quelques années de cela, je voulais le rappeler pour terminer, Dominique Darbon avait produit un rapport, je ne sais plus, au tout début des années 2000, à l'attention du CNRS, faisant le point, hein, justement sur les recherches concernant le continent africain, et il concluait à l'absence de communauté africaniste française, sa faible consistance à la fois théorique et empirique. Bref, c'était un signal d'alarme, hein, qui était tiré par Dominique. Il y a eu de fortes réactions à ce rapport, hein, dans le bon sens du terme, au sens où les chercheurs se sont organisés pour prouver qu'ils étaient là, qu'ils existaient, qu'il y avait quand même, hein, un champ assez actif, ce qui a donné, hein, Pierre va en parler, donné lieu au fameux RTP du CNRS en 2006 et à la création du GIS d'études africaines, qui a conduit aussi à des réactions des labos, parfois parfois sous la contrainte, notamment de nos institutions de tutelle, hein, avec des processus de, j'allais dire, de fusion-acquisition qui ont conduit à une espèce de duopole bordelais et parisien entre le LAM et le CEMAF. Et ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, 10 ans après la publication de ce rapport de Darbon, ben voilà, je crois que la tenue de ces journées d'études est quand même le signe que les choses ont très largement bougé, qu'il y a eu véritablement un décloisonnement de ces recherches. Vous l'évoquez notamment à travers la pluralité et la multiplicité des recherches qui témoignent aussi, je tiens à le souligner, quand on voit la provenance aussi des jeunes chercheurs qui présenteront des papiers qui ne sont pas uniquement dans ce duopole que j'évoquais à l'instant, qui témoignent aussi d'un encastrement de cette recherche africaniste dans les départements plus généralistes de sciences sociales, de littérature ou d'autres. Et pour conclure, donc, je voudrais peut-être finir sur ce point de cette place particulière ou pas que peuvent ou qu'occupent nos recherches dans l'ordre de la science dite normale et qui, je le disais tout à l'heure, est peut-être aujourd'hui une question dépassée. Dans votre appel à contribution, vous souhaitiez justement appeler les jeunes chercheurs à sortir de leur insularité, à décloisonner, à vous regrouper dans votre gmoï, comme on dit à Abidjan, pour exister et se voir reconnaître une place légitime dans l'ordre de la science. En sciences politiques, pour ce que j'en sais, ce fut une longue bataille, une longue bataille pour la désexotisation académique des recherches africanistes et leur pleine reconnaissance dans le giron d'une science politique très franco-centrée. Mais il me semble, aujourd'hui, et je crois que la preuve en est ici, que cette bataille a été en tout cas largement gagnée. En conclusion, je voulais citer Coulon, Christian Coulon, parce que bon, les jeunes chercheurs doivent aussi faire leurs offrandes aux anciens, n'est-ce pas et donc, Christian, dans un papier de 97 paru dans Politique africaine, l'exotisme peut-il être banal, écrivait « La science politique est au bout du champ, dans la marge, mais la marge est un lieu de passage, elle n'est pas une frontière, mais un lieu de transition. Les aires culturelles ne sont pas un champ clos, mais une talvera, terme occitan qui désigne le bout du champ, bout quelquefois non cultivé, mais souvent cultivé autrement, et qui de toute façon doit être traversé pour pouvoir labourer. » Alors que moi je souhaite que le labour soit extrêmement fructueux dans ces deux journées et que cela nous donne de belles récoltes, et donc je vous félicite encore une fois et vous encourage à continuer. Merci.
Puisqu'on ne me donne pas la parole, je la prends.
Oui.
Bien, alors je peux repartir de ces magnifiques comparaisons agricoles que fait mon collègue Richard, et simplement répondre d'abord dans un premier temps sur le fait de rafler les allocations. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de rafler deux allocations quand on est 40 à les réclamer. Évidemment, je peux peut-être partir là-dessus, justement, parce que bon, moi aussi, je suis très heureux d'ouvrir cette grande rencontre, parce que je crois qu'un des... D'abord, le premier intérêt, en soi, c'est le fait qu'il y ait une rencontre de jeunes chercheurs et de doctorants. Parce que, il faut le dire, c'est quand même quelque chose d'assez rare de pouvoir s'organiser pour justement répondre ce fait que les études doctorales actuellement sont quand même dans une situation un peu difficile. Et aborder la question, comme il est dit dans l'appel à communication, des conditions matérielles de réalisation des recherches doctorales, c'est quelque chose en dehors de tout champ et de toute spécialité qui, à mon avis, est extrêmement important et intéressant. Car effectivement, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire sur l'offre des contrats doctoraux, sur l'éventuelle amélioration des possibilités, justement, d'allocation. Et puis, il est dit dans cet appel à communication que vous allez parler aussi et dans la suite effectivement de tout ce qu'on peut dire nous aussi des difficultés d'accès au terrain, hein, alors en raison des interdits sécuritaires certes, mais en raison aussi des possibilités financières, hein, parce que finalement faire des doctorats en études africaines c'est un peu plus compliqué que de le faire dans des sujets plutôt européens ou franco-français, bon, et puis aussi cette poursuite des parcours après le doctorat. Alors ça c'est vrai que je vais rester assez optimiste en revanche dans la même ligne que Richard, parce que il y a actuellement, et c'est pour le moment répété et répété en permanence par l'INSHS, que vous connaissez peut-être pas, qui est l'Institut National des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, mais aussi par l'IRD et aussi par d'autres grands établissements publics, il y a un véritable intérêt pour l'Afrique et pour ce que le CNRS appelle encore ère culturelle. Vous savez qu'il y a tout un débat là-dessus, mais on ne va pas le lancer maintenant. En tout cas, ça aboutit effectivement à des recrutements. Alors, au LAM, d'une part, mais aussi au CEMAF, et ces dernières années on a vu donc un certain nombre quand même conséquent de jeunes chercheurs qui ont été recrutés dans ces deux laboratoires. Bon. Donc, comme cette préoccupation continue à exister apparemment au CNRS et que, en tout cas, l'équipe actuelle n'est pas prête de s'en départir, je crois que c'est plutôt positif et que si, en plus, il y a donc des travaux qui montrent les difficultés d'arriver justement à faire des doctorats dans cette spécialité, ça ne peut aller que dans le bon sens. Donc ça, c'est un premier élément pour moi de contentement, de voir que il y a des générations, on l'avait fait aussi à notre époque parce que c'était pas mieux, hein, en termes d'allocation ou quoi que ce soit, mais que là, il y a un renouveau aussi d'une certaine unité pour essayer de faire avancer les choses. Mais évidemment, le deuxième intérêt, c'est un rassemblement de jeunes chercheurs sur les études africaines. Et Richard a évoqué Dominique Darbon, il y a eu un deuxième rapport aussi qui a été fait par Jean-Pierre Chrétien, hein. Donc ces deux rapports effectivement étaient très négatifs à l'époque en disant que la communauté était éparpillée, qu'il y avait des chapelles surtout, et on les a vécues ces chapelles. C'est vrai que la génération qui nous a précédés était, je crois, était quand même assez marginalisée, évidemment, puisque les études africaines n'étaient pas au centre des intérêts, mais se considérait un petit peu aussi comme les rois du monde, hein, après ce florissement des études africaines et son installation académique dans les années 60, et donc était prêt à se disputer pour des petites choses, ce que effectivement nous n'avons pas trop supporté, hein, et ça a été une des origines justement de cette volonté, avec les alertes qui avaient été faites par Jean-Pierre Chrétien et Darbon, d'essayer de restructurer un petit peu les choses, ou de les structurer tout court, et surtout d'éviter l'éparpillement, les chapelles et les petits combats d'arrière-cour qui n'avaient aucun intérêt dans une situation où les choses n'étaient pas si simples. Alors, je ne serais pas aussi optimiste que toi, Richard, parce que peut-être qu'en Sciences Po, la question est dépassée, la bataille gagnée. Moi, je considère qu'elle n'est pas du tout gagnée encore en termes général. Et en histoire, en tout cas, puisque c'est ma spécialité, je vois bien que à la Sorbonne, par exemple, on n'est quand même pas très nombreux parmi les, je crois, 150 historiens que nous sommes, et qu'il faut en permanence démontrer que ce que nous avons autour de la taille n'est pas une ceinture de banane, mais bien une spécialité. Alors c'est pas tout à fait gagné, je pense, mais enfin bon, ça avance quand même, et ça avance entre autres parce que justement il y a eu des actions qui ont été menées, qui commencent à arriver à production, et notamment ce qui a été annoncé, le RTP et ce fameux GIS. Alors vous n'avez peut-être pas entendu parler. Donc le RTP est quelque chose qui était issu d'une demande au CNRS de structurer justement ces études africaines par l'intermédiaire d'un réseau plus ou moins fédératif, et au départ, donc ça fait quand même pas mal de temps, c'était autour de 2004, il y a eu donc l'octroi de ce RTP. Alors RTP, personne ne sait très bien exactement ce que veut dire le sigle, Nous, on le traduit par réseau thématique pluridisciplinaire. Effectivement, ça a commencé à jouer son rôle, puisqu'on avait réussi une première grande rencontre au CNRS en 2006, à l'issue de laquelle le CNRS, à l'époque, nous avait proposé donc de monter un GIS, un groupement d'intérêt scientifique autour des études africaines. Alors, le CNRS étant, comme tous ces grands établissements, un établissement où les équipes valsent régulièrement, ce GIS a été plus ou moins oublié. On a été quelques-uns, j'en ai fait largement partie, de ceux qui ont servi d'aiguillon pour rappeler aux différentes équipes au fur et à mesure qu'elles avaient promis quand même quelque chose, etc. Bon, et on y arrive, là, ça y est, enfin, au bout de 6 ans, le GIS, études africaines en France, donc, s'ouvre en ce janvier 2013 et est tout à fait dans la ligne de ce que vous allez faire donc pendant ces 2 jours. Et, si j'en juge par ce qui a été dit dans l'appel à projet et dit aussi les buts de ces rencontres, eh bien nous avons évidemment tous ensemble les mêmes intérêts. Structurer d'abord les études africaines qui certainement sont encore trop dispersées. On l'a bien vu, finalement, ces rencontres de 2006 qui ont été suivies ensuite par, dans la même foulée du RTP, des rencontres, si je ne me trompe pas, en 2009 organisées à Bordeaux, largement avec le LAM, qui s'appelait encore le CEAN, ont montré que les gens ne se connaissaient pas franchement encore, et pourtant qu'il y avait toute une floraison de travaux, d'études qui transcendaient complètement les disciplines, et on a eu des dizaines et des dizaines de panels qui ont montré tout ce qu'il y avait comme recherche émergente, comme transversalité aussi et pluridisciplinarité dans ces recherches, et que c'était vraiment très intéressant, mais qu'il y avait effectivement quand même des insularités diverses, des archipels, et que même au sein des labos qui commençaient à se constituer, à devenir de plus en plus gros, il y avait quand même malgré tout aussi une reconnaissance nationale et internationale encore à faire monter. Donc cette volonté de décloisonnement, c'est bien celle du GIS, cette volonté de réfléchir aussi à la place des travaux sur les mondes africains dans le champ de la recherche ou dans les champs de la recherche et dans les disciplines est aussi une véritable volonté du GIS. Et c'est bien pour ça aussi que, dès le départ, un certain nombre de gens ici le savent, le GIS qui n'était pas encore construit mais qui avait déjà de l'argent, ça c'est une chose qui arrive rarement, mais bon, ça se passe, a voulu soutenir donc cette très bonne initiative que nous vivons aujourd'hui. La deuxième chose, c'est d'assurer une meilleure visibilité de notre spécialité. Et il était dit, effectivement, dans ces rapports, mais aussi on en parle dans le préambule du GIS, qu'il y avait, ça commence effectivement, comme l'a dit Richard, à se concentrer très sérieusement actuellement en deux pôles, donc effectivement le pôle du LAM et puis le pôle parisien. Vous le savez peut-être pas, mais on est en train de construire quelque chose qui va normalement commencer l'année prochaine, donc la réunion du CEMAF qui a déjà un poids important, auquel va s'adjoindre le XIM, c'est pas un nom de danse africaine, c'est-à-dire le Centre d'Histoire Sociale de l'Islam Méditerranéen, de l'EHESS, et du CEAF aussi, de l'EHESS. Et vous avez peut-être lu le dernier bulletin de l'IRD. J'étais très étonné que Balandier, qui était interrogé par le journaliste du bulletin de l'IRD, se fasse d'un seul coup poser une question. Je ne sais pas que ça avait forcément autant de résonance, mais qu'est-ce que vous pensez, monsieur Balandier, de la réunion du CEMAF et du CEAF? Évidemment, on pouvait penser que Balandier était particulièrement intéressé par le CEAF, qu'il avait en partie construit. Et Balandier a répondu, oh, moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que de toute façon, j'ai fondé les deux centres. Bon, alors, puisque nous avons l'onction de M. Balandier, donc tout va bien, voilà, du père fondateur. Bon. Alors, ceci dit, effectivement, cette concentration permet des plus gros centres. Alors, certains pourront parler d'usine à gaz, moi je pense qu'on peut s'en sortir quand même, mais c'est sûr que ça assure quand même une meilleure visibilité, et puis que ces grands centres-là qui se constituent sont aussi particulièrement intégrés dans des réseaux internationaux, comme l'a rappelé Richard, l'AIGIS par exemple, sur lesquels vous êtes bien sûr tout à fait autorisé vous aussi à comment dire à postuler sur des appels d'offres. Alors je rappelle que la prochaine rencontre de l'AGIS va se passer à Lisbonne l'année prochaine, cette année plutôt, puisqu'on est déjà en 2013, ensuite, eh bien, on a prévu toute une série de choses, c'est-à-dire que l'année d'après, on va essayer de reconstituer encore, et j'espère que vous y serez aussi, donc une nouvelle rencontre en France, de nouveau organisée par Bordeaux en 2014, de façon à nous préparer à recevoir l'AEGIS à Paris en 2015. Donc vous voyez là, chaque année, on va avoir des choses où on pourra être très présent et montrer aussi l'importance, le foisonnement, le dynamisme des études africaines en France. Donc c'est le but du GIS, c'est de structurer ces études, d'assurer une meilleure visibilité, mais aussi, et c'est dit aussi dans votre appel à contribution, et ça j'apprécie beaucoup, avoir des actions de fond, hein, donc décloisonner les études en termes institutionnels, c'est une chose, mais les décloisonner aussi, décloisonner ces travaux, d'abord à l'intérieur du continent, faire tomber les vieilles barrières, et pour quelqu'un qui s'intéresse particulièrement au Sahara, montrer que après tout, on peut faire effectivement l'histoire de l'Afrique aussi bien au nord qu'au sud et qu'on n'est pas obligé de mettre une barrière de désert au milieu qui, d'ailleurs, l'actualité le montre bien, est quand même assez parcourue par pas mal de monde en ce moment. Donc, c'est aussi un fait d'histoire. Décloisonner aussi des subdivisions héritées de l'époque coloniale, post-coloniale, etc. Décloisonner en déprovincialisant aussi. Alors, là aussi, il y a des initiatives. Nos collègues non-africanistes, pour une fois qu'on va parler de non-africanisme au lieu d'extra-européen, ça peut être intéressant de retourner les choses, commence à être un tout petit peu sensible. À Paris 1, nous avons commencé, mais c'est pas du tout exclusivement Paris 1, et on espère très largement que ça va devenir de plus en plus étendu, à mettre en place une revue qui s'appelle Monde, avec le S entre parenthèses, sur lequel donc on voudrait travailler sur une histoire plus connectée, plus globale, et du coup les discussions sont très intéressantes pour montrer que il y a des choses. Le dernier numéro, nous l'avons fait avec Antoine Marès sur les empires, et donc on compare des empires mongols, des empires austro-hongrois et des empires de Bakouzi. Donc vous voyez que là il y a quelque chose qui avance quand même, même si nos collègues européanistes parfois tiquent un petit peu sur l'empire Bakouzi, ils ont un peu de mal à savoir ce que c'est, mais enfin bon. Par contre on sait ce que c'est que l'empire austro-hongrois, nous on est plus cultivés en fait que... Bon. Décloisonner donc ces études, rappeler donc les apports empiriques et théoriques de ces recherches, peu diffusées effectivement encore en dehors de leur cercle de production, mais là aussi ça avance aussi. Et puis un des buts du GIS, comme le but de cette rencontre ici, c'est aussi de faire l'état des lieux en permanence de ces recherches émergentes, des jeunes chercheurs, mais aussi des chercheurs plus confirmés, dans l'ensemble des terrains de l'Afrique, quels qu'ils soient, et éventuellement d'ailleurs au-delà du continent, puisque les diasporas aussi peuvent être quelque chose d'extrêmement important. Bon. Alors, je conclurai en disant que je pense qu'on est peut-être aussi soutenu par des réalités africaines qui bougent quand même beaucoup en ce moment. Hein. Alors, c'est vrai que, par exemple, étant spécialiste du Mali, on en discutait avec Odile Gerg sur la Guinée, parfois on est un peu désespéré par un certain nombre de choses, mais l'Afrique, malgré tout, est au cœur donc de l'actualité, des préoccupations internationales actuellement largement. C'est qu'aussi le nouveau continent émergence, c'est aussi le milliard d'hommes bientôt atteint. Vous savez que si vous lisez ce dont je ne doute pas la presse et le Monde, vous avez vu qu'il y a eu donc là une énorme page sur les 13 choses qui vont ébranler 2013 et notamment l'Afrique qui va devenir le grand continent. Mais bon, c'est très possible et c'est vrai qu'en Afrique même les choses avancent. Que les changements politiques, les mouvements sociaux, religieux surtout, les revendications territoriales, etc., ont des répercussions, bien sûr, bien au-delà des pays africains, et nous touchent aussi, et que les gens commencent à s'en rendre compte. Et nous avons l'expérience au CEMAR parce qu'on l'a effectivement décidé, on a eu une vision très volontariste de cette affaire, que ça a marché, et Richard y a très largement participé, que les décideurs politiques, les milieux diplomatiques, les médias commencent à se dire qu'ils ont effectivement besoin de nos analyses. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est relativement nouveau. Hein. Alors après, qu'ils en fassent quelque chose, c'est autre chose. Mais bon, donc ceci dit, je pense que notre travail à tous, doctorants, chercheurs, débutants, confirmés, etc., est un travail qui compte, hein, et qui va compter peut-être de plus en plus, et que ces rencontres sont un pas de plus dans l'affirmation de cette importance des études africaines. Donc, je vous souhaite de très bons travaux.
Merci beaucoup Pierre Boilet et Richard Banegas d'avoir mis plus en lumière les objectifs et de contextualiser cette rencontre dans l'histoire des études africaines en France. Nous allons continuer, nous souhaitons une belle suite de rencontres des jeunes chercheurs en études africaines. Et là tout de suite, il y a une pause café dans les locaux, vers l'entrée sur la droite. De mon point de vue. Et ensuite, nous nous déplaçons donc à Sciences Po Paris, 9 rue de Lachaise. La première session de panel est censée commencer à 10h30. Donc, passage éclair, quand même, à la pause café, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut juste.
Mais c'est ce que je viens de dire.
Cindy.
Ah, pour les participants, oui.
Je peux faire juste une petite annonce, parce que tout le monde est réuni. Oui. Pour ceux qui seront encore à Paris, un peu plus loin, je vous signale, j'évoquais le passage tout à l'heure, qu'on se tient tous les ans une rencontre européenne de société politique, la Réasopo, et que celle-ci se tient le 31 janvier et 1er février prochain, avec le 31 session autour de l'œuvre d'Éric Rosny, et le lendemain, une longue session autour de la question des papiers, et particulièrement un panel sur la Côte d'Ivoire, pour ce que ça peut intéresser.
Et aussi pour vous dire qu'il y a un déjeuner de prévu pour les participants.
Ici au Série.
Ici au Série et non pas rue de la Chaise.
Voilà. Et c'est ce qui est marqué là, je crois que c'est là.
Bon, allez.
Je ne suis pas sûre d'ailleurs, mais c'est marqué.